La rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes et c'est aussi la fête de ce lieu de pèlerinage qui est Lourdes, dans le sud de la France, non loin de l'Espagne. Un lieu de pèlerinage absolument exceptionnel, c'est peut-être le plus grand et le plus important des lieux de pèlerinage de cette planète. Car les millions de gens qui y affluent dans un grand esprit de prière, il faut y être allé pour s'en rendre compte. C'est aussi la fête, dans certains milieux, du linceul de Turin, du Saint-Suaire, le Mardi Gras, en fait, la veille du carême. Et je vous parlerai plus longuement du Saint-Suaire de Turin lors du Vendredi Saint, quand je ferai une émission spéciale consacrée à la passion de notre Seigneur d'après le linceul de Turin. Ce sera donc ça le 28 mars. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Cette émission consacrée aujourd'hui à Notre-Dame de Lourdes est un peu particulière dans le sens que j'en ai déjà fait deux émissions l'an dernier à pareille date, soit le 12, j'avais parlé des apparitions de Lourdes, le 12 février 1996. Les apparitions de Lourdes qui ont eu lieu en 1858. Et le lendemain, le 13, je vais parler longuement de Sainte Bernadette, deux émissions entièrement consacrées donc à Lourdes. Aujourd'hui, il sera plutôt question du miracle, des miracles qui se déroulent à Lourdes. Et je vous rappelle que j'avais déjà fait une émission le 3 novembre 1995 sur l'un des plus grands médecins convertis à Lourdes, le docteur Alexis Carrel, prix Nobel. Et cette émission entièrement consacrée au docteur Carrel avait beaucoup plu. Car avec lui et avec bien d'autres, je crois, moi, fermement, la réalité du miracle majeur, le miracle vraiment majeur, là, au sein de l'Église catholique. Et la meilleure introduction pour parler de cette réalité du miracle majeur au sein de l'Église catholique, c'est bien le témoignage d'Alexis Carrel, qui était un physiologue de très grand renom au début de ce siècle. Sa vie, sa pensée ont été profondément influencées par le miracle catholique. Je dis le miracle catholique parce que ça n'existe pour ainsi dire pas en dehors. En particulier par le miracle de Lourdes. Cet homme, en 1902, avait 30 ans. Il a écrit d'ailleurs à cette époque un livre très intéressant qui s'appelle « Le voyage de Lourdes ». C'est intitulé « Le voyage de Lourdes ». C'est suivi de fragments de journal et de méditations. C'était publié beaucoup plus tard, vers 1950, je crois. Et c'est un livre passionnant à lire. On peut le lire et le relire. Hein. Donc, c'était un jeune et brillant médecin, mais incroyant. Il se prépare à obtenir le titre de chirurgien des hôpitaux, ce qui est très recherché en France. Cette histoire que je vous avais racontée, je la résume donc, l'histoire que je vous ai racontée le 3 novembre 95 à Rencontre spirituelle. À ce moment, 1902, il soigne une malade. Elle a un abcès de la hanche d'origine tuberculeuse. Qu'en désespoir de cause, assez étonnant, bien qu'il est incroyant, il l'envoie à Lourdes. Et puis elle revient guérie. Peu après, à table, les médecins discutent son cas. Alors, docteur Carrel annonce la parfaite guérison de sa malade et il ajoute « Je ne fais pas de déclaration, je ne discute pas, je n'interprète pas, je ne suppose rien, je signale simplement le fait. » Et quant au mécanisme, et alors il y a un professeur qui l'interrompt et qui lui dit « Inutile d'insister, docteur Carrel. Avec de telles idées, mon cher monsieur, je crois pouvoir dire que vous n'avez rien à faire parmi nous, la faculté de médecine de Lyon. » ne vous ouvrira jamais ses portes. Et en vérité, dit Carrel, s'il en est ainsi, je m'en vais. Il ne manque pas d'endroits qui me seront propices. Et c'est curieux que cet incident a été à l'origine de son départ pour les États-Unis. Et là, il a fait des prestations brillantes aux États-Unis, particulièrement à l'Institut Rockefeller. Ça lui a valu, en 1913, le prix Nobel de médecine. Certains passages du journal de Carrel, publié après sa mort, prouvent que depuis 1896, donc un peu plus avant, il était déjà préoccupé par le problème du miracle, et spécialement par l'effet de Lourdes. Et alors, un an après l'incident en 1903, là il est, une fois de plus, aux prises avec le miracle, à Lourdes même. Cette fois-ci, c'est une jeune femme. elle souffre de péritonite tuberculeuse, qu'il a lui-même soigneusement sculptée. Puis elle arrive à Lourdes, mourante, imaginez. Alors il dit, lui, le docteur Carrel, en plaisantant à un de ses amis, vous vous souvenez peut-être que je vous avais raconté ça, il dit donc, je crains fort qu'elle ne me meure entre les doigts. Mais si celle-là guérissait, ce serait vraiment un miracle. Je croirais à tout. Et je me ferais moine. C'était un peu de la mode, hein, se faire moine bénédictin dans ce temps-là. Hein, pour. Il raconte ça dans Le Voyage de Lourdes à la page 41. Et quelques heures passent, debout, près de la malade, il griffonne, vous savez, sur sa manchette, là, le chronométrage de la guérison qui dure quelques minutes. C'est un récit poignant de ce voyage de Lourdes. Ça a été publié en édition posthume, comme je vous ai dit, 50 ans après l'événement. Et de longues années s'écouleront entre le miracle et les dernières conclusions que devait en tirer Carrel. Mais cependant, depuis ce jour, le miracle prend dans ses préoccupations une place importante. Ça le fascine, ça le fascine. Et plusieurs fois encore, d'ailleurs, il est mis en présence du fait miraculeux. Il écrit « Je crois en la guérison miraculeuse. Jamais je n'oublierai l'impression. Écoutez bien, ça qui m'écrasa quand je vis de mes yeux vus un énorme abcès cancéreux se résorber sur la main d'un ouvrier et devenir une légère cicatrice. Je ne peux comprendre, mais bien moins encore douter de ce que j'ai vu de mes yeux vus. » La légère cicatrice, c'est comme la signature de la Sainte Vierge. Dans son livre fameux « L'homme s'est inconnu », Carrel nous donne une première fois le résumé de ses expériences. Dans tous les pays, à toutes les époques, dit-il, on a cru à l'existence des miracles, à la guérison plus ou moins rapide des maladies, dans les lieux de pèlerinage, dans certains sanctuaires. Mais à la suite du grand essor de la science pendant le 19e siècle, cette croyance est disparue complètement et il a été généralement admis que non seulement, ajoute Carrel, le miracle n'existait pas, mais qu'il ne pouvait pas exister. On disait les lois physiologiques s'opposent au miracle. Et Carrel conclut en disant « Cette attitude est aujourd'hui encore celle de la plupart des physiologistes et des médecins. Cependant, elle n'est pas tenable en face des observations que nous possédons aujourd'hui. Les cas les plus importants ont été recueillis par le bureau médical de Lourdes. » Pas si vous savez ce que c'est le bureau médical de Lourdes, n'est-ce pas? C'est un ensemble de médecins. Plusieurs sont des incroyants ou des musulmans ou des juifs, etc., qui étudient les cas. Le docteur Carrel ajoute « Notre conception actuelle de l'influence de la prière sur les états pathologiques est basée sur l'observation des malades et presque instantanément ont été guéris d'affections variées telles que tuberculose osseuse ou péritonéale, abcès froid, plaies suppurantes, lupus, cancer, etc. » Il parle, là, n'est-ce pas, de guérison instantanée. Il ajoute « Le processus de guérison change peu d'un individu à l'autre, souvent une grande douleur, puis le sentiment soudain de la guérison complète. En quelques secondes, quelques minutes, ou plus quelques heures, les plaies se cicatrisent, les symptômes généraux disparaissent, l'appétit revient. Parfois, les désordres fonctionnels s'évanouissent avant la lésion anatomique, les déformations osseuses du mal de pote. Les ganglions cancéreux persistent souvent 2 ou 3 jours encore après le moment de la guérison. Et le miracle est caractérisé surtout, continue Carrel, par une accélération extrême des processus de réparation organique. Il n'est pas douteux que le taux de la cicatrisation des lésions anatomiques est beaucoup plus élevé que le taux normal. Écoutez bien ça, il dit... Il conclut comme ça, « La seule condition indispensable au phénomène est la prière. » Mais il n'est pas besoin que le malade lui-même prie ou qu'il possède la foi religieuse même. Il y a des athées, des agnostiques qui sont guéris. Il suffit que quelqu'un près de lui soit en état de prière et de tels faits sont d'une haute signification. Fin de la citation. À ce moment, son évolution intérieure, le docteur Alexis Carrel cherche encore l'explication dans la relation, dit-il, de caractère encore inconnu, entre processus psychologique et organique. Dans son petit livre sur la prière, écrit en janvier 1944, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, il précise sa pensée. Il écrit « quelque étrange que la chose puisse paraître, nous devons considérer comme vrai que quiconque demande reçoit, et qu'on ouvre à celui qui frappe. En somme, tout se passe comme si Dieu écoutait l'homme et lui répondait. Puis en octobre 1944, quelques semaines avant sa mort, il arrive au terme de sa longue recherche, il en tire la conclusion pratique, et d'ailleurs il demande les derniers sacrements, puis il meurt le 3 novembre 1944. Alors à notre tour, nous allons tenter l'examen de cette série de faits religieux. Et comme Alexis Carrel, nous allons partir des faits de Lourdes, là, parce que l'appareil de contrôle en matière de miracles y est le plus complet, le plus sûr qu'on puisse trouver à notre époque dans le monde entier. Mais presque tout le monde, j'espère, connaît assez bien les événements religieux qui se sont produits à Lourdes, qui sont à l'origine des miracles de Lourdes, à partir du 11 février, c'est l'anniversaire aujourd'hui, jusqu'au 16 juillet 1858. Une petite fille, Bernadette Soubirous, une enfant pauvre, peu développée, voit apparaître 18 fois de suite la très belle dame près de la grotte de Massabielle. C'est un beau nom, Massabielle. Et le 25 mars, c'est la 17e apparition, Bernadette demande son nom à la belle dame qui répond en patois du pays « Que soiera Immaculate Conception ». Je suis l'Immaculée Conception, d'autres termes en français. Et sur le chemin du retour, car elle doit porter la réponse à Monsieur le curé, eh bien, la petite Bernadette se répète ces mots difficiles. Elle comprend pas, elle craint d'oublier. Elle aura toujours de la peine, d'ailleurs, à le prononcer jusqu'à son dernier jour. Et l'événement vient de se passer. Bernadette raconte à une dame, Mademoiselle Estrade, et Mademoiselle Estrade l'interrompt. Bernadette s'arrête, intimidée, se tourne vers la demoiselle et l'interroge à mi-voix. « Mademoiselle, qu'est-ce que cela veut dire, Immaculate Conception? » La dame, apparue le 25 février, avait donné à Bernadette Soubirous un ordre étrange. « Allez boire et vous laver à la fontaine et manger l'herbe que vous trouverez là. » C'est curieux, hein? Il n'y a pas d'eau tout près, sinon le petit rivière, le gave. Et Bernadette s'en approche, mais la foule attentive la voit s'arrêter tout à coup. Elle se retourne, elle tend l'oreille, puis là, elle fait signe que oui. Elle fait 2 pas vers la grotte, elle s'arrête, elle interroge silencieusement l'apparition que personne ne voit, et enfin, elle se courbe jusqu'à terre, elle gratte le sol, et là paraît une eau boueuse, et ce sera la source de Lourdes, cette source qui va donner bientôt 120 000 litres en 24 heures. Et là, le 2 mars, Bernadette, après une nouvelle apparition, retourne chez Monsieur le curé, qui s'appelle l'abbé Péramal, elle lui répète la demande de la dame, qui veut une chapelle sur le rocher de Massabielle, et ajoute de plus, « Je veux qu'on vienne ici en procession, et c'est depuis ce temps-là que les foules accourent à Lourdes. » Alors, au commencement de tout ce qui se déroule à Lourdes, là, tous ceux qui se préoccupent des apparitions se méfient. Hein. Il y a un flot de scepticisme, des calomnies, des injures. Ça vient même de la France entière. Une France incrédule, d'ailleurs. On se dresse contre Lourdes. Il s'ensuit que les premiers témoins s'en tiennent à une attitude très critique. Et il rassemble ainsi, dès le départ, heureusement, des données probantes, de grande valeur. C'est très intéressant. Avant même qu'on parle d'un bureau de constatation médicale, il y a 3 points qui sont soumis à un examen critique serré. Tout d'abord, on fait l'examen de cette petite fille Bernadette. Hein, le docteur Dozou, qui est un médecin de famille, c'est un incroyant qui va à l'église que pour les enterrements. Mais il accompagne Bernadette à la grotte, lui, le 20 février. Ce docteur Dozou, il a, dit-il, le secret espoir de faire crouler au nom de la science toute cette construction enfantine, dit-il, d'une mystique maladive. Alors, pendant l'apparition, il met le doigt sur l'artère radiale du bras de Bernadette. Et il déclare que le pouls était tranquille, régulier, la respiration facile. Rien dans la jeune fille n'indiquait une surexcitation nerveuse, comme si elle avait réagi sur... Ça avait réagi sur tout l'organisme là, d'une manière particulière. Alors, 2 jours plus tard, M. Estrade, qui a écrit un livre, j'ai ça aussi dans une très vieille édition, c'est paru en 1899, Les apparitions de Lourdes, c'est encore très valable après un siècle. C'est très bien fait, c'est surprenant. Hein? Et alors donc, deux jours plus tard, M. Estrade, curieux nom, hein, qui est receveur des contributions, qui est notable de Lourdes, prend le chemin, lui, de la grotte, et en route, il plaisante à propos des visions. Au retour, il est transformé. Alors on lui demande, à lui, puis au docteur Dezou, en somme, vous n'avez rien vu? Puis la réponse est simple et catégorique. C'est une réponse sympathique. Si, j'ai vu le visage de Bernadette. Alors le 25 mars, enfin, le baron Massy, qui est le préfet de Tarbes, disons, celui qui... Un préfet en France, c'est important, il gère toute une région. Mais il livre Bernadette à l'examen de trois psychiatres avec l'espoir de la faire interner, puis les trois praticiens, on connaît leur nom, prolongent l'interrogatoire. Et leur conclusion attribue les apparitions à ce qu'ils appellent un état extatique, mais ils confirment que, pour le reste, Bernadette est saine d'esprit et que sa bonne foi est indubitable. Alors, dans l'intervalle, il y a une nouvelle série de faits qui a sollicité l'attention du docteur Dezou. Il commence un nouvel examen. Dès le jaillissement de la source, le bruit court, là, puis il y a des guérisons extraordinaires qui se produisent, hein. Des guérisons vraiment extraordinaires, je vous en relate quelques-unes. Je vous promets, je vais vous en raconter quelques guérisons fantastiques aujourd'hui. Si on ne veut pas croire, il faut vraiment vouloir ne pas croire. Hein. Un carrier, quelqu'un qui travaille dans une carrière de pierre, Louis Bourriette, a perdu depuis 20 ans l'usage de l'œil droit. Depuis 20 ans, hein, dans lequel, lors d'une explosion, un éclat de pierre s'est logé. Le 26 février, dans la matinée, il demande à sa fille de lui apporter un peu d'eau de la source. Il baigne l'œil malade. Le lendemain, il rencontre le médecin qui l'a toujours soigné, le docteur Dezou, justement. Et il lui crie « Je suis guéri ». Alors, le docteur Dezou, il hausse les épaules, et c'est assez sympathique. Il griffonne quelques mots sur un bout de papier, puis là, il va couvrir l'œil gauche de la main, puis il présente à l'œil droit, qui est malade, qui voit rien, il présente la petite note. Et le carrier lit sans hésiter, il voit son nom d'abord, Bourriette. Il le voit, de son œil qui ne voit rien. Bourriette est atteint d'une amaurose incurable. Il ne peut voir, il ne verra jamais. Profondément troublé par le cas, le docteur Dezou entreprend les jours suivants l'examen de tous les miraculés. Il en appelle au professeur Vergès de la faculté de médecine de Montpellier. Et Mgr Laurence, l'évêque de Tarbes, c'est l'évêque de la région, ça, institue, dès le 28 juillet, une commission, ça commence, laquelle, sous la présidence du professeur Vergès, avec la collaboration du docteur Dezou, du professeur Chrétien de Montpellier, du chirurgien Bermond de Bordeaux, entre autres, commence l'examen d'une bonne centaine de guérisons, et parmi celles-ci, ben, ils en retiennent 8 qui sont déclarées absolument inexplicables sur le plan médical, puis l'évêque lui en proclame 7 miraculeuses. Il y a un troisième examen qui a trait à l'eau de source. Et là, le conseil municipal de Lourdes s'intéresse aux guérisons, puis il acquiert la certitude qu'elles sont dues aux vertus curatives de Lourdes. Mais après un examen sérieux, on se rend compte que cette eau ne contient aucune substance active permettant de lui attribuer des propriétés thérapeutiques spéciales. Elle peut être bu sans inconvénient, d'ailleurs. D'ailleurs, c'était répété encore il y a quelques années par l'évêque que ce n'est pas de l'eau miraculeuse. Mais en dépit de tout ça, des miraculés extraordinaires, dont je vous en ai déjà parlé, comme Jeanne Fretel, Marie Bailly, il y a des cassettes là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Mais il y a quelques cas de guérison d'aveugles qui occupent une place privilégiée dans les annales de Lourdes. Hein. Elles ont été guéries de maladies absolument incurables. Et chose étrange, ça arrive que le rétablissement fonctionnel précède la guérison organique. Je m'explique. C'est-à-dire que la fonction de l'œil est rétablie, puis la guérison de l'œil lui-même n'est pas encore tout à fait faite. L'organe n'est pas guéri. Voici un cas caractéristique, je vous le raconte en 5 minutes. Marie Biré, 42 ans, santé chancelante depuis 1904. Très affectée par la mort de ses deux enfants et par la crainte d'en perdre un troisième. Le 14 février 1908, selon le récit du docteur Hibert de Luçon, brusque aggravation. Alors, À la suite d'un vomissement de sang rouge, puis de terribles douleurs de tête qui lui arrachent des cris aigus, après quoi abondant puis fréquent vomissement poracé, dit-on. 5 jours de coma, Le 25 février, revenu à elle, la malade est complètement aveugle, par atrophie papillaire. Les médecins tentent pendant plusieurs mois d'enrayer le mal. En juillet, nouvelle crise. La malade, qui habite la Vendée, donc plutôt assez loin de Lourdes, elle veut se rendre à Lourdes malgré l'opposition de sa famille, qui craint de ne pas la voir survivre au voyage, et le 3 août, elle est transportée à Luçon, d'où elle part pour Lourdes. C'est un voyage pénible, très pénible. Arrivée à Lourdes le 4 août, le lendemain, elle y assiste à la bénédiction du Saint-Sacrement, aux prières. Mais épuisée, elle doit être amenée à l'hôpital. Une mauvaise nuit, un long évanouissement qui fait craindre le pire. Puis au matin du 5 août, messe et communion à la grotte. Après quoi, 20 tentatives de descendre dans la piscine. Vous savez, c'est des piscines où on plonge dans une eau glaciale. Les pauvres malades, bien trop de monde, ils peuvent pas la mettre. À 10h15, elle est ramenée à la grotte par les brancardiers. Puis là, il y a une dernière messe qui se termine. Le Saint-Sacrement est ramené à la basilique du Rosaire, et quand le prêtre passe près d'elle, Madame Biry se soulève et murmure « Ah, je vois la Sainte Vierge. » Elle retombe évanouie au fond de sa voiturette. Un petit filet de sang glisse au coin de la bouche. Elle reprend conscience et elle voit parfaitement. Après-midi, examen au bureau des constatations musicales, avec des médecins, là, devant une grande assemblée de médecins, parmi lesquels le docteur Boissary est l'aîné, qui est un oculiste renommé de Rouen, et celui-ci, à son grand étonnement, constate « œil droit, papille blanche nacrée, vaisseaux centraux presque imperceptibles, le reste du fond de l'œil est normal, œil gauche, papille blanche nacrée, vaisseaux centraux très diminués, mais de calibre à peu près double de ceux de l'œil droit. Malgré cela, ils n'ont guère que le tiers du calibre normal. Madame Biret est atteinte d'atrophie blanche et des papilles d'origine cérébrale. Cette affection est reconnue par tous les auteurs comme absolument incurable. La lésion est donc restée, mais Madame Biret voit. Elle lit les plus petits caractères du journal. À distance même, la vision est parfaite. Et le lendemain, nouvel examen au bureau des constatations médicales. Et tout est confirmé, et du point de vue organique, Madame Biret a maintenant le droit de voir, car au début, elle n'avait pas le droit de voir, puisque son organe n'était pas réparé. Et vous verrez tout à l'heure la suite, et comment je vais aboutir pour vous parler de Lourdes, de ce lieu extraordinaire, où Dieu agit par l'intercession de sa Sainte Mère Marie. Or, je viens de vous parler de Madame Biret, une aveugle, complètement guérie, instantanément. Et Madame Biret revient en parfaite santé. Selon le bureau des constatations médicales, elle revient pour un examen 1 an plus tard. Et on raconte, Madame Biret revient en parfaite santé. Elle a engraissé de 52 livres, vue excellente. Le fond de l'œil est normal, la vision parfaite. Il y a le docteur Vallet qui déclare avoir revu Madame Biret à Lourdes en 1933, donc 25 ans plus tard, et ses yeux étaient en bon état. Sa vision était à ce moment la vision normale d'une femme de 69 ans. Or, revenons en 1910, l'évêque de Luçon a proclamé cette guérison miraculeuse. Il y a d'autres cas intéressants de guérison d'aveugles. François Villon-Durie, 30 ans, un soldat guéri sur l'instant, comme un coup de fusil, d'un décollement bilatéral de la rétine. Il y a celle aussi du petit François Pascal, 4 ans seulement, de Beaucaire, guéri en 1938 de quadriplégie et cécité complète, suivie d'une méningite lymphocytaire aseptique. Il y a d'autres cas, en 1878, Joachim Dehaut, 29 ans, guérison subite d'une plaie gangréneuse à la jambe, 32 cm sur 15. Yvonne Aumaître, 22 mois, un bébé, guérison subite en 1896, d'un double pied-bot de naissance. Guérison subite. Léonie Lévesque, 29 ans, une institutrice, guérison subite en 1908 d'une sinusite frontale double avec ostéite de l'os frontal. En voulez-vous d'autres? Madeleine Loyer, 28 ans, guérie subitement en 1937 des suites d'une myélite chronique, syringomyélite et syringobulbie. Madame Cartier, Q-U-A-R-T-I-E-R, Cartier, épouse d'un médecin, 43 ans, guérison instantanée en 1937 d'angine de poitrine, par athérome coronarien constaté par électrocardiogramme du professeur Liane. Guy Lédet, qui n'avait que 3 ans et demi, guérison subite en 1946 d'une idiotie complète post-encéphalique et de paralysie des 4 membres. C'est un des grands miracles de Lourdes, etc., etc. Pourrais-vous en donner? À propos de ces événements, il y a 2 questions qui s'imposent. Est-ce que ces faits sont représentatifs de ce que le catholicisme appelle un miracle? En d'autres mots, la forme sous laquelle il se présente répond-elle aux traits caractéristiques décrits dans la première partie? L'authenticité en est-elle vraiment prouvée? Est-ce que ce sont des miracles majeurs, comme je vous disais au début? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a aucun équivalent dans le domaine de la médecine profane? Et en réponse à la première question, il est certain que les faits de Lourdes présentent les caractères de ce qu'un catholique appelle miracle, par le contexte religieux d'abord qui les entoure, grâce au cadre des apparitions, puis au message qui les accompagne. Le miracle de Lourdes, là, n'oubliez jamais ça, il baigne dans la sphère religieuse de la dévotion mariale professée par l'Église catholique romaine. Et il surgit dans un climat de confiance illimitée en l'intercession maternelle du cœur immaculé et si aimant de Marie. Plus précisément, le cadre des pèlerinages auxquels participent les malades, l'atmosphère de foi, de confiance et de prière qui y règne et qui crée un contexte où le miracle prend de lui-même sa signification religieuse. Oh, d'accord, il y a les excès du commerce. J'y suis allé à Lourdes. C'est décourageant, les excès du commerce qui s'y fait. Il y a une exploitation éhontée aussi de l'émotion religieuse, même de la part de certains catholiques. Que voulez-vous? C'est comme ça. Et souvent par des gens sans foi ni conscience aussi. Ça favorise pas, loin de là, un climat de prière, tout ça, avant qu'on arrive sur le terrain proprement dit de Lourdes, quand on passe les grilles. Et quand on passe les grilles, c'est comme si on entrait au paradis après l'enfer. Plus défavorable encore, il y a la propagande touristique qui crée autour de Lourdes une espèce de curiosité purement profane. Puis il y a la sensation du prodigieux, là. Oh, on cherche ça, hein. Ça s'allie au charme sauvage du pays, qui est très beau, hein. C'est très beau, le charme de la région. Ça s'est amplifié à tel point qu'on dit que certains craignent une profanation de plus en plus totale du climat religieux, ce qui engendrait un jour le miracle peut-être impossible. Comme il l'était, d'ailleurs, souvenez-vous, pour le Christ, c'est dans l'Évangile et dans son village natal qui était incrédule. Hein. C'est Carrel qui écrit, Alexis Carrel, dans la prière, il dit à Lourdes, « Les miracles sont beaucoup moins fréquents qu'ils l'étaient il y a 40 ou 50 ans, car les malades n'y trouvent plus l'atmosphère de profond recueillement, qui y régnait jadis. Les pèlerins sont devenus des touristes et leurs prières sont inefficaces. » Mais heureusement, il y a un retour, hein. Il y a une réforme qui se fait à Lourdes. Il y a une constatation, cependant, s'impose, hein, avec évidence. Hein. En pratique, les grands miracles, comme d'ailleurs la dévotion des vrais pèlerins, là, échappent complètement à l'atmosphère du sensationnel puis de la commercialisation. Allez-y en priant et vous verrez comme c'est merveilleux. La plupart s'accomplissent non pas sous le signe de la publicité et de l'agitation, ces pèlerinages, mais au cœur du silence. Les miracles s'accomplissent au cœur du silence. On peut d'avance se méfier Des malades qui, pendant la procession du Saint-Sacrement, là, ils se dressent sur leur grabat puis proclament à grands cris leur guérison. Ce sont souvent des malades de la tête. Hein. Ce sont de fausses guérisons, souvent, dans laquelle de pauvres malades, qui font pitié au fond, usent leur dernière force en une violente autosuggestion. Si bien qu'après quelques jours, évidemment, il arrive beaucoup qu'ils en meurent. C'est triste au fond. Ah, la maladie du cerveau, c'est une des choses les plus pénibles. Pas de meilleure preuve, au contraire, de l'emprise spirituelle dans les guérisons authentiques de Lourdes que le grand nombre de vocations religieuses parmi les miraculés. Preuve également des conversions parmi les miraculés, les témoins aussi, puis les simples pèlerins. Tous les auteurs qui parlent de Lourdes, ils insistent sur un aspect caractéristique. Bon nombre des miracles, par leur contexte, évoquent d'eux-mêmes la comparaison avec les récits évangéliques. Et de plus, Lourdes manifeste une préférence divine pour les pauvres. Aussi bien dans les miracles que dans les apparitions, les guérisons de riches y sont l'exception. Ajoutons que dans le récit de toutes les guérisons, un mot revient toujours, tel un refrain. Et quel est ce mot? C'est prière. Mais chaque événement s'insère dans un contexte concret, qui est souvent prenant. La prière s'y rencontre comme un élément habituel, souligné sans cesse. Confiante ou faible dans l'hésitation du doute, simple comme celle d'un enfant, ou bien solide et rude à la manière d'un homme, pleine de réserve sur l'élève de l'incroyant et de l'athée, poignante et prête à violenter le ciel dans la bouche des mères. Prière tranquille et abandonnée de ceux que la souffrance a purifiés. Prière héroïque du malade qui s'offre en sacrifice d'amour pour la guérison d'autrui. La prière n'est pas seulement la constante la plus remarquable du contexte miraculeux de Lourdes, il faut bien le reconnaître. Elle en est la seule constante. Les maladies que Lourdes guérit sont diverses. Les malades ne se ressemblent pas. Les circonstances de la guérison sont irréductibles à quelque processus uniforme que ce soit. L'événement survient à la piscine, des fois, au dehors, au cours de la procession, ou pendant une prière solitaire à la grotte, ou à la messe. Il y en a même, c'est avant l'arrivée à Lourdes, ou après le départ, dans l'isolement d'une chambre ou dans l'alcôve du malade. Seule la prière reste le facteur invariable de toute guérison, comme le docteur Carrel le notait dans le texte que je vous ai cité au début de cette émission. Second trait du miracle de Lourdes, très voisin de la prière, c'est sa discrétion. Elle doit marquer, nous l'avons dit, le miracle authentique. Le miracle authentique, c'est pas de la baliverne. La discrétion caractérise aussi le miracle de Lourdes. Et celui-ci, à ce titre, est représentatif du miracle dans l'Église catholique. Point de guérison en masse à Lourdes. Le miracle y reste relativement exceptionnel, d'ailleurs. Humainement parlant, il échappe au calcul. Et la manière dont s'opère le miracle est elle aussi marquée de la plus grande discrétion. Jamais il n'est question de création nouvelle, pas de croissance d'un membre neuf. C'est quelqu'un qui n'a pas de jambe, puis la jambe pousse. Là. Non. Rien ne ressemble à une espèce de fable, à une fantasmagorie. Il n'y a pas de fée là, qui exercerait une puissance plus ou moins capricieuse, et puis cette fée qui s'amuserait avec les lois de la nature. Non, il s'agit de guérison au sens plénier du mot. Elle garde une valeur spirituelle que souligne tout le contexte. Le savant qui compare entre eux les processus de guérison miraculeuse convient qu'elles se produisent. Comment? En respectant les formes suivies par les guérisons naturelles. Tous ceux, à peu près, qui s'en sont préoccupés, déclarent que dans ces guérisons, tout se passe comme si un processus naturel s'achevait à un rythme infiniment accéléré. C'est ça l'affaire. C'est le père Teilhard de Chardin dans la revue Études, tome 118, Pierre Teilhard de Chardin qui écrit, « Sans doute un microscope qui pourrait suivre le processus de la guérison suivrait la multiplication des cellules se faisant d'après un mécanisme connu. » Mais accéléré au suprême degré. Hein? La discrétion du fait de Lourdes, l'invitation à en chercher la signification profonde, à un autre plan, a pour symbole très caractéristique la persistance normale de cicatrices, hein, et souvent aussi d'autres traces de la maladie qui est disparue, qui perdure. Jusqu'après, si curieux est la constatation évidente de la guérison miraculeuse, et très frappante à ce titre dans les guérisons de cystite, des aveugles, cité plus haut, là, mais la restauration organique, qui paraît bien après la guérison fonctionnelle, comme je vous l'ai expliqué, ce qui d'ailleurs est arrivé plus d'une fois dans d'autres guérisons, bien, le phénomène est d'ailleurs si fréquent, dans d'autres domaines également, que les médecins l'appellent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la signature de la Sainte Vierge. Mais il reste une seconde question. L'authenticité des faits de Lourdes est-elle parfaitement prouvée? Appartiennent-ils ces faits à la catégorie des miracles majeurs? Est-ce qu'il n'y a pas des équivalents dans la médecine profane? Or, l'authenticité des faits est absolue, ça. Ça a été vérifié et vérifié même par des athées et des agnostiques. Elle s'appuie sur le témoignage de dizaines de médecins, pour chaque cas particulier, sur les extraits des dossiers de cliniques, les caisses de mutuelles, les laboratoires, suivant sur des documents provenant d'instances officielles civiles ou militaires. Les témoignages émanent de médecins ayant la foi, mais aussi d'incroyants. Un ensemble impressionnant de faits est présenté. Et pour s'obstiner à le refuser, il faudrait supposer une invraisemblable accumulation d'erreurs et de malhonnêteté. C'est impossible. Une mauvaise foi gratuitement attribuée à des milliers de personnes, c'est impossible. Un complot du miracle ainsi imaginé apparaîtrait plus invraisemblable que la plus invraisemblable guérison. Soyons sérieux. Et je dois ajouter que le progrès de l'examen médical, avec tous les nouveaux moyens techniques, avec les enregistrements minutieux des appareils de mesure, ça n'a pas fait tort, ça, au miracle de Lourdes, au contraire. Il y a trouvé, au contraire, une confirmation irréfutable. Il est possible de contredire le diagnostic d'un collègue, c'est sûr, mais il est impossible, c'est évident, de récuser le témoignage d'une plaque radiographique ou d'une analyse du sang. Aussi, parmi les savants qui prennent la peine de serrer les faits de près, il en est peu aujourd'hui qui osent mettre en doute leur authenticité. Et là, nous arrivons à la question importante. Est-il impossible de découvrir, dans le domaine de la médecine profane, des faits équivalents? Je vous posais donc la question, est-il impossible de découvrir, dans le domaine de la médecine profane, des faits équivalents? Est-ce que les médecins ordinaires constatent des choses pareilles? Il est porte de bien entendre cette question. Les faits, naturellement explicables ou non, est-ce qu'ils se présentent exclusivement dans un contexte religieux ou au contraire? Est-ce que la médecine connaît, dans sa pratique habituelle, chez les médecins ici de l'autre côté de la rue, des faits identiques ou au moins équivalents? La différence entre les deux questions apparaît clairement dans la discussion d'un cas en particulier. Il s'agit de la guérison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1946, de Guy Lédet, un jeune garçon de 5 ans, un enfant. Atteint d'une idiotie totale avec paralysie des quatre membres, suite d'une encéphalite. On est témoin d'une discussion passionnée chez les médecins. Une explication naturelle de ce processus de guérison est-elle, oui ou non, possible? Le docteur Leuret, L-E-U-R-E-T, lui-même convient qu'on peut discuter indéfiniment sur ce cas. Cependant, un des médecins se lève et déclare, « Si quelqu'un ici a déjà vu guérir ainsi un idiot post-encéphalique, je m'engage à ne plus jamais signer un procès-verbal du bureau médical de Lourdes. » Alors, aucun des 60 médecins présents n'osa relever le défi. Tous étaient bien d'accord. Jamais, 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 pareille guérison ne s'est présentée en des circonstances profanes. À plus forte raison, peut-on affirmer, que pour tous les cas mentionnés plus tôt, les annales de la médecine profane n'ont jamais relaté rien de semblable. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Entendez-vous? En effet, il s'agissait chaque fois, et sans aucun doute possible, d'une maladie spécifiquement organique dont témoignaient des preuves objectives. La présence éventuelle de traits psychogènes dans le tableau d'ensemble de la maladie ne peut donc pas, selon les principes énoncés plus haut, offrir une explication valable à la guérison de lésions organiques. La soi-disant atmosphère d'exaltation de Lourdes, ça explique rien non plus, car une série de guérisons se constate hors de Lourdes aussi. Ça se fait souvent dans le silence, je vous l'ai dit. Dans son état actuel, la médecine déclare absolument inguérissable plusieurs maladies dont la guérison fut obtenue, tel celui de l'aveugle. L'absence de cas semblables dans la médecine profane n'est pas prouvée. C'est évident. Les faits eux-mêmes en donnent la preuve. Pour les autres cas, il s'agit de maladies exigeant normalement un délai de guérison très long puis un traitement thérapeutique intense. Or, dans tous ces cas, la médication n'a pas eu lieu, surtout parce qu'elle était encore inconnue à l'époque. Ou bien cette médication avait été abandonnée depuis longtemps, parce que sans résultat. D'autre part, la guérison s'opérait si rapidement que le facteur temps y pouvait être considéré comme négligeable. Et pratiquement dans chacun des cas, la guérison s'est faite instantanément, je le répéterai jamais assez. De plus, on y chercherait en vain les caractéristiques de la convalescence qui accompagnent toujours la guérison d'une maladie grave obtenue par la voie ordinaire médicale. On essayait bien jadis de donner à l'eau de Lourdes puis au bain de la piscine des vertus curatives. C'est faux. Nous savons déjà que l'eau de Lourdes n'en possède aucune. Une dernière analyse a tenté d'en déceler l'éventuelle radioactivité, mais ça s'est heurté à un résultat négatif. Il est au contraire très étrange que l'eau souillée par les baigneurs, souvent contagieux d'ailleurs, moi je les ai vus, on trempe les pauvres malades dans cette eau, c'est presque répugnant. Puis l'eau est rarement renouvelée, ça n'a jamais propagé d'épidémie, ça n'a jamais contaminé les autres pèlerins, comprenez-vous ça vous? Le jargon pseudo-scientifique parlait à la fin du siècle dernier du choc émotif par balnéation froide, le choc, hein? Il est évident que pour la plupart des cas cités, la baignade, s'il s'agit vraiment de baignade et non de simple lotion ou d'absorption d'eau, n'est pas le remède indiqué, c'est sûr, c'est une curieuse pratique. Il convient plutôt de s'étonner que la plongée dans l'eau froide, c'est 9 degrés Celsius, hein, c'est froid ça, 9 degrés Celsius, ça n'occasionne aucun accident. Le docteur Leray, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a voulu en faire l'expérience. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il a plongé dans la piscine pendant 15 secondes seulement. C'est la durée habituelle du bain des malades. Et il explique d'un mot son impression. C'est atroce. Le docteur Béag donne à la série d'études qu'il publie dans le cahier Laennec une conclusion à dominem. Et voici ses questions. Vous, médecin, et surtout, spécialistes, vous, les étudiants externes, internes, qui œuvrez dans les services où défilent des milliers de malades, avez-vous vu, et c'est là la question, avez-vous vu une double atrophie blanche de la papille permettre le retour de la vue instantanément, durablement, tandis que la blancheur de la papille ne s'efface que lentement dans le temps? Avez-vous vu une tuberculose pulmonaire évolutive se calcifier en quelques jours ou une tuberculose péritonéale disparaître rapidement? Avez-vous vu une méningite tuberculeuse, puis il s'explique là-dessus, un cancer du pylore et du foie guérir tout à coup, etc., etc. Si vous l'avez vu, dites-le nous. Pour nous, nous ne l'avons jamais vu hors des cas suscités à Lourdes. Y a-t-il de tels miracles en dehors de l'Église? C'est-à-dire des prodiges majeurs, je dis pas des prodiges simples, des prodiges majeurs. Je vous en reparlerai un jour. Nous y reviendrons. Je voudrais prier quelques instants avec vous. Quelques petits instants. Seigneur, Père, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés.